que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre cœur et notre intelligence et nous conduise à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très-Saint Rosaire, priez. Notre-Dame du Très-Saint Rosaire, Notre-Dame du Très-Saint Rosaire, priez pour nous. Bon, eh bien, nous allons commencer cette petite retraite. Là, c'est juste une toute petite introduction que nous allons faire avant la messe de l'Ascension, puisqu'on commence quand même le jour de l'Ascension du Seigneur. Vous savez ce qu'on a décidé de faire cette année. On a décidé de faire une petite méditation sur la confession. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi facile de s'arracher à ce monde cosmique. Lorsqu'on parle de l'Eucharistie, c'est facile. On reçoit tout dans l'Eucharistie. On reçoit tout de Dieu. Il donne complètement. Lorsqu'on parle, par exemple, de la croix, une fois ici, on avait fait toute une retraite sur la croix de Jésus, la manière dont Jésus vivait la croix, toute sa vie. La manière dont il était complètement pris par l'amour de la croix. Et comment il était mort tout le temps, d'amour. Parce qu'il était crucifié. Pourquoi ? Parce qu'il était, il était dès le départ, il s'est mis derrière les hommes, hein, alors lui qui était quand même dans le sein du Père. Il s'est mis derrière les hommes, puis il a mis les hommes entre lui et le Père. Alors, il vivait la mort, toutes les morts, dès le premier moment de sa conception. On a vu ça, on a passé... Ça c'était beau du reste, c'était il y a 4 ans. Mais regardez comment Jésus avait vécu la croix, tout le temps. Et puis une autre fois, on avait fait une retraite sur l'amour. On avait regardé l'amour. Ah bah oui, faire une retraite sur l'amour, ça... C'est merveilleux de faire une retraite sur l'amour. Puis on a fait une retraite sur Marie, je crois, peut-être. Et puis enfin, on a fait une retraite l'année dernière sur l'Eucharistie. Bon, très bien. Aujourd'hui, on sent qu'il faut commencer à confesser. Et qu'il faut commencer à confesser, qu'on rentre dans le mystère de la confession, à confesser notre foi. La confession. On va rentrer dans le mystère de la confession. Parce que la confession, ben, c'est un mystère. C'est ce qui est toujours très grand dans la confession. Et vous le savez, nous le savons bien, la confession est quelque chose d'extrêmement délicat. Parce que, à chaque fois, et on le sait, à chaque fois qu'on se confesse, par exemple dans un sacrement, il y a beaucoup de manières hein, de vivre du mystère de la confession. C'est un mystère. Et un des moyens de rentrer dans le mystère de la confession, c'est le sacrement. Et on sait très bien qu'à chaque fois qu'on vit du sacrement, de la confession, on sait très bien qu'il y a quelque chose de très mystérieux. Qui est très désagréable même, d'une certaine manière. Il n'y a rien de plus... En général, c'est le sacrement qu'on redoute le plus. Quand un protestant se convertit, quand un païen se convertit, quand quelqu'un du Nouvel Âge se convertit, quand un pécheur invétéré comme moi se convertit. La chose la plus difficile, c'est le sacrement le plus difficile, c'est la confession. Le plus difficile à accepter, l'intellectuel. Le sacrement le plus difficile à accepter, c'est la confession. Pour le sentimental, le sacrement le plus difficile à accepter, c'est la confession. Pour le révolté, le sacrement le plus difficile à accepter, c'est la confession. Pour tous ceux qui sont dans les idéologies, pour tous ceux qui sont dans la nuit de la foi, le sacrement le plus difficile à accepter, c'est la confession. C'est le plus difficile. Et en même temps, le prêtre sait très bien, c'est-à-dire Jésus sait très bien, quand il institue le sacrement de la confession, il sait très bien que c'est le sacrement final. C'est le dernier sacrement qu'il institue. Il a institué tous les sacrements Et il a institué en dernier le sacrement de la confession. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ce qu'on regardera. On va essayer de voir à travers toute l'Écriture comment tout commence avec le péché originel et tout se termine avec le mystère de la confession. Et entre les deux, il y a une espèce de grand silence. C'est pour ça qu'à chaque fois, l'Église tient tellement à ce que ce soit toujours enveloppé de silence, le mystère de la confession, le secret de la confession. C'est un secret. Ça me paraît absolument impossible de rentrer dans le mystère, dans l'amour, dans la miséricorde, dans le don parfait que Jésus nous fait, si nous ne sommes pas décidés, si vous voulez, tous ensemble, à être le plus silencieux possible. Il faudrait que pendant ces 3 jours, ce qui n'est pas très difficile, pendant ces 3 jours, on puisse faire comme Jésus, lorsqu'il a vécu le sacrement de confession, et il l'a vécu substantiellement entre l'instant où il est mort et l'instant où, après la blessure du cœur, il est ressuscité. Ça a duré 3 jours. C'est ce qu'il y a de tout à fait fabuleux dans la vie de Jésus, c'est ce que j'aimerais tellement qu'on puisse voir ensemble, comment Jésus, finalement, le seul sacrement qu'il ait vécu, il n'a pas vécu de l'Eucharistie, puisque le corps du Christ, c'était lui. Il n'a pas vécu du baptême, puisque c'est lui qui a baptisé les eaux du Jourdain. Il n'a pas vécu du mariage, il a vécu du sacerdoce. Ça, c'est vrai. Voilà un sacrement qu'il a en plénitude. Et il a vécu, sauf que ce n'est pas sous le mode sacramentel, mais il a vécu du sacrement de la confession. C'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble. Parce qu'on ne se confesse qu'à la manière du Christ. C'est Jésus qui confesse les péchés. Et Jésus qui confesse le Père. Et la grande confession du Christ, c'est quand il est mort sur la croix. Et donc il faut qu'on rentre, et je crois que ce serait absolument merveilleux qu'on demande à Marie, qu'on demande à l'Esprit-Saint. Ce côté un peu héroïque, si vous voulez, de faire une retraite dans le silence complet, parce qu'on n'a pas l'habitude, le silence, c'est très dur. Le monde d'aujourd'hui, qui est un monde de bruit, un monde de parler à la radio, faut occuper les ondes, quoi. C'est un monde de bruit, faut occuper le terrain. Regardez comment Jésus, quand il confesse, il n'occupe pas le terrain. Il s'efface tout le temps. Apprendre à s'effacer. Devant l'amour, apprendre à s'effacer devant la miséricorde, apprendre à s'effacer devant la faiblesse, apprendre à s'effacer devant le pardon, apprendre à s'effacer devant la soif, apprendre à s'effacer devant la détresse, apprendre à respecter. C'est pour ça que Jésus a tellement aimé l'heure de la croix. C'est pour ça que Jésus a tellement aimé de se préparer à cette heure de la croix dans le silence, 30 ans de silence. Parce que je suis sûr qu'à Nazareth, avec Marie et Joseph, ça ne devait pas être l'hystérie. Hein. C'était très silencieux. Le cœur de Jésus et le cœur de Marie étaient si enracinés dans la détresse humaine qui ne pouvait qu'être dans le secret. Et Joseph, et Saint Joseph était silencieux aussi, on sait très bien. Et c'est pour ça, on voit bien dans l'Écriture, que Joseph ne dit rien, Marie, elle ne dit rien. Et Jésus, il ne parle que quand Joseph et Marie sont partis. Parce que quand ils sont tous les trois, la détresse de l'homme, la détresse de la femme, la détresse de l'enfant. Et Jésus a aimé de se préparer. Il a mis 30 ans à faire l'expérience d'une vie humaine qui se laisse prendre par le mystère de la confession et sans confesser. Ce serait très joli de regarder justement ce qui se passait dans la entre Joseph et la Vierge, l'Immaculée, puis Jésus. Du reste, on va essayer de le voir, ça. Mais pour nous, je crois que c'est important de regarder et de comprendre qu'un sacrement ne peut pas se vivre à la manière des hommes. Qu'un sacrement ne peut pas se vivre à notre mesure. Et que ce n'est pas notre péché, ou notre faute, ou notre amour, ou nos espérances qui donnent la mesure du sacrement de la confession. Pas du tout. Du mystère de la confession. Pas du tout. Le sacrement de la confession, sa mesure, c'est la confession de Jésus crucifié. C'est le cœur de Jésus. Ça, c'est la mesure du sacrement. Et la mesure du mystère de la confession, c'est la très sainte Trinité. Parce que éternellement, le Fils, le Verbe de Dieu, est, je suis, est, E-S-T, est la confession du Père. Quand le Père confesse, il est Dieu. Il produit un verbe. Et le mystère de la confession, c'est le mystère de la très sainte Trinité. Lorsqu'on confesse ce qu'on est, apprendre à confesser ce qu'on est. Et comme l'homme, à partir du moment où il s'est séparé de Dieu, il est devenu incapable de confesser ce qu'il est. Jésus s'incarne pour remettre cette habitude éternelle de la très sainte Trinité dans le cœur de l'homme. Confesser ce qu'il est. Il est amour. Nous avons été fabriqués avec de l'amour. Nous avons été fabriqués pour être dans un face-à-face et un regard de douceur. Un regard liquéfié, un regard de dépendance, d'obéissance. On est tout le temps à aller au-devant de l'autre, comme conquérant de l'amour. Voilà ce qu'on est. On a été fabriqué avec cette matière-là. Et avec le péché, on a oublié ça. On est incapable de confesser l'amour. Mais Dieu est amour et il confesse tout le temps qu'il est amour. Regardez par exemple ce que l'Esprit Saint fait tout le temps. Éternellement, avant la création du monde, l'Esprit Saint, il confesse qu'il est l'amour. Est-ce qu'il le confesse? Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Je crois, moi, personnellement, et c'est ce que nous verrons si on a le temps à la fin, de voir la différence entre la confession du Fils de Dieu éternellement, avant la résurrection et après la résurrection. Et la différence entre la confession, c'est une pré-confession, hein, la confession du Saint-Esprit avant la résurrection et l'ascension, et après l'ascension. Il y a quelque chose qui a changé dans la confession de la très sainte Trinité. Et c'est ça peut-être la chose la plus étonnante du sacrement de confession. Parce que nous participons à faire, en effet, qu'il y ait quelque chose de nouveau. La créature, même par la grâce, ne rajoute rien à Dieu. Il faut toujours se rappeler ça. Mais néanmoins, il y a quelque chose de nouveau. C'est justement ça qui est très curieux dans le mystère du Christ et de la création. Parce que Dieu est tout. Mais la gloire de Dieu prend une extension nouvelle. Alors, il faut sentir, et je crois que c'est ensemble qu'on va essayer de rentrer dans la révélation. On va essayer autant que possible de prendre la Bible, de prendre la parole de Dieu, pour voir à quel point le mystère du pardon, de la réconciliation, de l'Holocauste où tout est brûlé, de la conversion, de la miséricorde, du pardon des péchés, de la pénitence, il constitue comme une espèce de trame cachée, silencieuse. Autant le sacrement de l'Eucharistie, il est inscrit visiblement dans la Bible, la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, comme on l'a vu l'année dernière, dans la méditation biblique, de manière ostensible, l'Eucharistie, dès le départ, tout le temps. Autant, le mystère de la confession, il est à travers tout un ensemble de silences. C'est secret, la confession. C'est un secret. Je me demande si l'Eucharistie, c'est pas par excellence le sacrement du Christ. Et je me demande, moi, si la confession, c'est pas par excellence le sacrement de la Vierge, de la femme. C'est vrai? Je me demande. Il y a un complément entre les deux. Il y a quelque chose de très complémentaire. Si vous regardez bien la structure, il y a quand même une structure très différente entre les deux. Mais il va falloir qu'on regarde ça. C'est pas notre sujet, je veux dire. Il faudrait qu'on rentre dans la Bible, mais enfin, quand même, je vous signale, il y a quand même pas mal de choses. Mais voyez, par exemple, dans le sacrement me relie à Jésus ressuscité, à la victoire de l'agneau, à l'amour. Il me relie, religion, religare. Je suis relié à Dieu, dans une espèce d'extraordinaire fusion. Dans l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus, Dieu, qui fait le don total de lui-même dans l'Eucharistie. Et moi, le pécheur, l'homme, qui accueille ce don, c'est moi qui le reçois. Tandis que dans la confession, c'est moi qui donne ce que j'ai. Dans la confession, c'est l'homme, vous voyez, c'est pour le sacrement ça, c'est l'homme qui donne ce qu'il est. Il se donne. Et il se donne, j'allais dire, dans ce qu'il y a de plus vrai en lui. Oui. Parce que nous savons très bien que tout ce que nous faisons de bien, tout ce que nous faisons de bien, c'est pas nous qui le faisons. Ça vient de la grâce. Ça vient de Dieu. Ça, c'est une des choses qui choque le plus les petits-enfants quand on leur explique au catéchisme. Tout ce que tu fais de bien, ça vient de la grâce. Tout ce que tu fais de mal, ça vient de toi. Ça alors... Et même si tu fais un effort, mais alors héroïque, ça t'arrache tout, on va dire. T'en peux plus, tu as résisté, mais alors, t'as fait des efforts, tu t'es serré la ceinture, tu as en hurlé de douleur. Pour échapper à tel mal, telle tentation, tel péché, telle faute, à t'en arracher le ventre, tu vois, à en désespérer même. Et puis on te dit, c'est pas toi qui l'as fait. C'est Dieu qui en toi a fait ça. Toi, t'as rien fait du tout. C'est la grâce qui l'a fait. Par contre, quand tu te précipites à l'intérieur de la cuve, et que tu patauges, n'est-ce pas, dans le pressoir, et que tu fais gicler le sang du Christ, n'est-ce pas, par ton indifférence, alors à ce moment-là, c'est toi qui le fais. Parce que Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas. Mais Dieu est source de tout ce qui est. Et le bien existe, le mal n'existe. Du point de vue de l'être. Du point de vue de la vie, le mal existe. Le mal, c'est vivace. Hein, c'est un aiguillon. Ça t'excite. Il y a de la vie. Il y a de la vie dans le mal. Le mal est vivant. C'est pour ça que si on n'a pas, on ne voit pas la différence entre l'être et la vie, on comprend rien. Hein. Saint Augustin dit, le mal, c'est du non-être. Et c'est vrai, c'est une absence de bien. Le bien existe, parce que l'être, c'est le bien. Dieu existe. Dieu est amour. Le bien existe. Et l'être est bon. L'être premier est un bien parfait. C'est Dieu. Donc c'est facile à comprendre qu'à chaque fois que je fais du bien, je ne rajoute rien à ce que Dieu est. Parce que Dieu est la bonté par excellence. Dieu, c'est l'amour. Et en faisant un acte d'amour, tu ne rajoutes rien à ce que Dieu est. Donc, tout amour nouveau, c'est Dieu. Tu n'as rien rajouté. Strictement rien. À chaque fois que je fais quelque chose de bien, c'est Dieu qui le fait. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu en moi. Mais à chaque fois, effectivement, que je pose un acte, qui est destructeur, qui est une indifférence, qui écarte, j'allais dire, le point de vue de l'amour, alors à ce moment-là, effectivement, c'est moi qui le fais. Et c'est là. Et finalement, là où je peux me montrer dans mes actes, parce que l'acte révèle la personne, si je veux me montrer dans mes actes tel que je suis, alors à ce moment-là, si je dis ce que j'ai fait de bien, je ne révèle rien du tout. Mais si je révèle mon péché, je révèle ce que je suis. Si je dévoile mon péché, je dévoile ce que je suis. Et si je dévoile mon péché de la manière la plus vraie qui soit, de la manière la plus sans rien cacher, de la manière la plus crue qui soit, attention, pas psychologiquement, hein, spirituellement, c'est-à-dire je dis les choses telles qu'elles sont. Alors à ce moment-là, je me présente face à Dieu, face au Père, face à l'Esprit-Saint, face à Marie, face à toute l'Église, face à mon frère, face au prêtre, je me présente face à celui que Dieu a mis proche de moi, tel que je suis. Confessez vos péchés les uns aux autres, épître de Saint-Jacques. Si tu veux montrer que tu es dans une relation d'amour avec celui qui est proche de toi, dis-lui ce que tu es là. Ne fais pas le petit séducteur et puis montre ce que tu es, ne te gonfle pas. Dis que tu es lamentable puisque ce n'est pas un mystère ça, que tu es lamentable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où tu te montres tel que tu es, face à Dieu, tu réintègres le mystère de la très sainte Trinité. Parce que dès que tu es face à Dieu, tel que tu es en pleine vérité, tu es retourné dans le mystère de la très sainte Trinité. Il n'y a pas d'autre moyen pour retourner dans le mystère de la très sainte Trinité. Tant que tu n'es pas passé par le mystère de la confession, impossible de retourner dans le mystère de la très sainte Trinité. C'est impossible. Parce que le mystère de la très sainte Trinité, c'est une communion face à face, en plénitude de vérité, avec le Père. Alors c'est pour ça, on confesse ce qu'on est. Et il faudrait regarder justement, et c'est ce qu'on va essayer de voir comment. Voilà, donc vous voyez bien qu'on montre, on donne ce qu'on est, on se donne. Et on se donne, il n'y a pas de manière plus vraie, plus substantielle, plus personnelle de se donner qu'en donnant justement ce qu'il y a de plus vrai en nous et ce qui vient de nous seuls. Alors du coup, nous sommes accueillis par Dieu. Le Christ nous accueille. Vous voyez, c'est un mouvement différent, un mouvement complémentaire entre le sacrement de l'Eucharistie et puis, sacrement de la confession. Le mystère de l'Eucharistie, le mystère de la confession. Dans le mystère de l'Eucharistie, c'est un mystère de foi, c'est un mystère d'amour. Puis le mystère de la confession, c'est un mystère d'espérance. C'est reçu dans le cœur, l'Eucharistie. C'est reçu dans notre foi. C'est reçu dans notre corps. Tandis que la confession, c'est reçu dans le cœur du Christ. Et la mutation eucharistique, elle est reçue dans le passage du don à l'accueil, transsubstantiation. Tandis que la transsubstantiation eucharistique, elle s'opère dans le cœur du Christ. Il y a une espèce de transsubstantiation, hein. Mais elle n'est pas dans le temps. Parce que la transsubstantiation eucharistique, elle est dans le temps. Alors, c'est le péché, notre péché, c'est le péché qui nous a éloignés de Dieu, c'est celui, le péché qui nous a séparés de Dieu, qui va servir et qui sera le seul moyen de nous réintroduire intégralement en Dieu. Il n'y aura pas d'autre moyen. Il y a deux grandes voies d'accès pour être réintroduit en Dieu. Je peux parler plus exactement, au fond. Il y a l'Eucharistie et la confession. Mais vous voyez bien qu'ils sont inséparables. Vivre de l'Eucharistie sans le mystère de la confession, c'est absurde. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que l'amour, c'est un échange de dons et d'accueil réciproque. Il y a plein de gens qui veulent vivre uniquement de l'Eucharistie. Ah, pas de la confession. Ça, non. Ils n'ont pas compris que le sacrement, c'est un sacrement d'amour. Ça implique la réciprocité. Je reçois tout. Je donne tout. Je donne tout pour recevoir tout. Hein? Il y a, évidemment, quelque chose de très fort, là. C'est très mystérieux, hein? Je vous préviens. Sacrement de la confession, c'est le mystère de la confession, c'est pas facile. Hein. Y a pas beaucoup de mystiques, de théologiens qui n'y a pas eu beaucoup de révélations privées sur le mystère de la confession. C'est pas à la mode. Alors, et puis, je vous dis, c'est un secret. Alors, donc nous, comme nous sommes des pauvres gens. On ne peut pas faire de groupe, vous voyez ? On ne peut pas faire de groupe plus pauvre que nous. C'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas. Plus désemparé que nous, plus lamentable que nous, plus au ras des pâquerettes que nous. Non, c'est pas possible. Essayez de me trouver un groupe aussi pitoyable que le nôtre. Cherchez dans toute l'Église, sur toute la surface de la Terre, vous ne trouverez pas. Mais après, on va s'étonner que les gens soient étonnés. Mais non ! Mais moi, je ne suis pas étonné que les gens soient étonnés. Qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? C'est vraiment un phénomène, cette histoire-là. Ah ben oui, c'est un phénomène, tout à fait. C'est parfaitement un phénomène, c'est très phénomène. C'est étonnant, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, l'envoi ? C'est presque monstrueux. Mais oui, c'est monstrueux. C'est... Vraiment, on ne peut pas inspirer confiance. Est-ce que nous pouvons inspirer confiance ? Non, on ne peut pas inspirer confiance. Est-ce que c'est étonnant que nous n'inspirions pas confiance ? Ce n'est pas étonnant du tout. Donc c'est normal, si vous voulez, que l'Esprit Saint, vous savez, à partir du en pleine fête de l'Ascension, il nous demande de rentrer dans ce mystère de ceux qui reconnaissent qui n'y arrivent pas, quoi. Et qui sont, au fond, à la face du monde, presque, au fond, pour ainsi dire, pas un contre-témoignage, c'est pas ça, mais le témoignage que Jésus, il est chez les pauvres. Que Jésus, il a épousé, il a confessé qu'il était pauvre et qu'il était pauvre chez les pauvres. C'est ça que Jésus a choisi. Jésus a choisi les êtres rampants. Et c'est vrai, regardez le symbole que prend justement Moïse dans le désert pour prendre Jésus. tu dresseras, tu prendras un piquet, tu prendras un serpent et tu le cloueras sur une croix. Et tous ceux qui le regarderont, qu'est-ce qu'il prend comme symbole pour le Christ crucifié? Moïse, il prend l'être rampant, le plus repoussant qui soit, le visage qu'a pris Lucifer pour tromper Ève. C'est impressionnant ça. Mais c'est dans ce qu'il y a de plus repoussant que Jésus veut glorifier la très sainte Trinité et avoir la victoire. C'est pas à partir des saints, c'est pas à partir des gens qui disent « Oh mon Dieu, il ose parler de ça, mais c'est épouvantable. Mais nous sommes immaculés, nous ne pouvons pas entendre des choses pareilles. » Le pharisien, vous voyez, regardez les pharisiens. Comment ils disent, mais comment est-ce qu'il ose dire des choses pareilles, enfin, et puis il va chez les pêcheurs. Tu vois, il fait des beuveries avec ses animaux puants. Et alors les pharisiens plissaient leurs narines. Comme dit l'écriture, plissaient leurs narines. Narikous. Narikous, en grec, je vois. Narikous. Alors Jésus dit, vous êtes en puanteur aux yeux de Dieu. Parce que eux, ils plissaient les narines. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et Jésus leur dit, vous êtes en puanteur aux yeux de Dieu. Vous êtes en puanteur aux yeux de Dieu. Jésus aime les pauvres. Et Jésus aime ceux qui savent qu'ils sont pas religieux. Ils le savent très bien. Oui, on a une confiance, mais alors totale dans Jésus. Ah, pour nous, Jésus, c'est formidable. Pour nous, Jésus, c'est l'Immaculé, c'est étonnant. Pourquoi? Parce que nous, on est très loin d'être l'Immaculé, quoi. Hein? C'est sûr. Hein? Ben, l'Immaculé, c'est formidable. L'Esprit Saint, l'amour, c'est prodigieux. C'est pour nous. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a rien. Alors, on n'en a pas d'amour. On n'y arrive pas. Tu y arrives, toi? Oui, j'y arrive. Bon, t'as pas besoin de l'Esprit Saint. Allez, dehors. Hop. Bon. Nous, on n'y arrive pas. Mais oui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à voir cette merveilleuse sainteté, quoi. Non. Et ça, c'est l'Église de Jésus, elle est comme ça. L'Église de Jésus, elle est constituée dans la confession. Jésus s'est fait pécher pour nous. Il faudrait lire tous les chapitres d'Isaïe. Je ne sais pas si on aura le temps. Lire tout ce qui se passe dans l'Écriture. L'Écriture me paraît totalement incompréhensible si on ne comprend pas ça. Si on ne comprend pas que ce que Dieu a aimé le plus dans l'homme, c'est ça, c'est cet état. Oui. Dieu sait que Dieu n'avait pas créé l'homme pour ça. Donc je vous relis le Midrash, n'est-ce pas, rabbinique sur la création. On va commencer quand même pour qu'on ait au moins fait un tout petit peu avant la messe. Au commencement, puisqu'on va essayer de prendre la Bible, hein, pour regarder le mystère de la confession. Mais j'espère que dès le départ, nous sentons bien que le mystère de la confession est un mystère qui est extrêmement exigeant du point de vue de l'obéissance, du point de vue de la pauvreté. Autant l'Eucharistie est une rencontre entre le mystère de la foi et le mystère de l'agapé et de la charité, autant la pénitence, la réconciliation et surtout la confession est une rencontre entre le mystère de l'espérance et de l'agapé. Il y a trois, l'espérance et la charité, se rencontrent dans la confession. C'est vraiment les deux sacrements qui vont ensemble, comme l'époux et l'épouse, les inséparables. C'est pas le baptême et l'Eucharistie, hein. Ah non, 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 ça n'a rien à voir. Le sacrement de baptême n'a rien à voir, c'est pas du tout l'époux par rapport à l'Eucharistie qui serait l'épouse. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Vous sentez bien, puisque le baptême, il vous donne simplement la possibilité. Vous voyez, il vous met, il vous incorpore dans le corps mort et ressuscité du Christ. Bon, et il fait simplement que nous sommes des enfants de Dieu. D'une certaine manière, il y a quelque chose du sacrement de la confession dans le baptême, mais c'est simplement potentiel. C'est possible. C'est le passage au fond de la puissance à l'acte. Le sacrement de pénitence vous met une nouvelle puissance. Et du coup, vous pouvez vivre de Jésus, de Marie, de la grâce, de l'Esprit Saint, de la très sainte Trinité. Mais vous voyez bien que la complémentarité, elle joue entre l'Eucharistie, entre le don du cœur de Jésus qui brûle dans l'amour, et puis la confession. Le don au cœur de Jésus qui brûle dans l'amour. Ça, c'est la complémentarité. Là, on voit tout de suite la complémentarité. Et si on ne saisit pas ça, je crois qu'on ne peut pas comprendre. Et on ne peut pas rentrer dans le mystère de l'amour éternel de Dieu. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il se sépare de lui. Il avait créé l'homme avec la grâce originelle et avec une quasi-impossibilité de se séparer de lui, de se séparer de l'amour. Plaignez. Une quasi-impossibilité. Il a tout donné, dès le départ. Avec un petit manque, quand même. Un tout petit manque. Pas grand-chose. Mais le petit millimètre qui manque. Mais il a tout donné. Quasi impossible de se séparer. Dans le principe, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Prêt. Il était là. Une couve. L'Esprit, l'amour substantiel de Dieu, et à la création, couve le cœur de l'homme. Comme ça, de manière enveloppante. Hop. Impossible de ne pas... Impossible pour Adam et Ève de ne pas... Quasi impossible pour Adam et Ève. Quasi impossible, il faut toujours dire quasi. Pour de résister à cette prise de l'amour. Et Dieu dit que la lumière soit, et ceci est en pleine lumière. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Ah, voilà. D'un seul coup, il y a quand même, effectivement, le mystère d'iniquité. Et il y a des anges qui apparaissent et qui disent non. C'est vrai. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est fait avant que l'homme ne soit formé. C'est Lucifer. Lucifer qui est créé en pleine lumière et puis qui comprend que ce ne sera pas lui le sommet de la création. Alors il dit non. Il le comprend tout de suite parce que Dieu crée le ciel et la terre. Et lui est créé en pleine lumière. Et donc il comprend que si Dieu a créé le ciel et la terre, le sommet de la création, ce ne sera pas un être de pleine lumière. Ce ne sera pas un être qui n'est créé qu'avec du ciel. Le ciel, c'est l'esprit. Forcément, il faut que le sommet de la création, ce soit quelque chose qui fait l'unité, puisque Dieu est amour. Et donc Lucifer dit non. C'est pas la grandeur, c'est pas la beauté, c'est pas l'harmonie que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi l'harmonie. Dès le départ, avant le péché, Dieu n'a pas choisi la grandeur, l'honneur, l'élévation. la contemplation. Dieu n'a pas choisi l'intelligence. Dieu n'a pas choisi les énergies. Non, non. Dieu a choisi ce qui fait l'unité entre la plus grande pauvreté, la matière, et la plus grande ouverture, l'esprit. Et ça, Lucifer le comprend tout de suite. Il a Dieu en plein visage, il est porteur de la lumière de Dieu. Il sait que Dieu l'appelle à partir de la richesse étonnante de sa lumière substantielle avec laquelle il est créé. Il est lui-même lumière, Lucifer, et porteur de la lumière substantielle de Dieu. Lucifer. C'est-à-dire cette porteur, je ne sais pas si vous voyez, cette espèce d'ouverture au mystère de la très sainte Trinité, lumière née de la lumière. Donc, possibilité d'une ouverture quasi-infinie. Non seulement en dimension du cosmos, mais au-delà même de cette dimension cosmique. Il est créé comme ça, c'est sa nature. Mais, effectivement, comme par orgueil, il dit qu'on ne peut rien créer de plus grand, et c'est vrai. On ne peut rien créer de plus grand que moi. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui soit considéré comme le roi fraternel, le roi de l'univers. Le roi de l'univers, ce sera l'homme. Alors à ce moment-là, cette capacité d'ouverture se replie sur elle-même. Et l'intelligence est voulue pour elle-même. Alors c'est pour ça. On ne verra jamais dans le récit de la création, Dieu créa les énergies. Les énergies, ça vient de cette fermeture de l'intelligence contemplative à la lumière éternelle qui constitue Dieu en lui-même. On ne verra jamais dans le récit de la création, Dieu créa les énergies. Les énergies, ça vient de cette fermeture de l'intelligence contemplative à la lumière éternelle qui constitue même. S'il n'y avait pas eu cette fermeture, il n'y aurait pas d'énergie. Il ne faut jamais oublier ça. Ou bien il y a cette ouverture contemplative et Dieu, ou bien il y a une fermeture et à ce moment-là, il y a des énergies. Et nous, on a plein d'énergie puisque il y a une fermeture, justement. À cause du péché. Donc, on ne peut pas nier qu'il y ait des énergies. Hein. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, donc, on reviendra. Simplement, il faudrait lire. Continuons. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème qui se pose. Il y a un jaloux qui traîne. Alors, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit le firmament et il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Les eaux. La vie, quoi. La vie. Dieu crée l'homme, esprit et matière. C'est le premier jour. Dieu crée l'homme comme roi, le lion, roi de la vie, roi des animaux, roi de tout ce qui vit. Troisième jour, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre, et il appela mer l'amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre fasse pousser du gazon, les herbes. Enfin bref, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu crée l'homme comme plénitude, comme un roi fraternel qui unit tout ce qui est esprit, tout ce qui est matière. Premier jour. Deuxième jour, il lui donne la vie et la maîtrise sur tout ce qui vit. Troisième jour, il lui donne la grâce originelle, c'est-à-dire cette fraternité avec l'intimité divine et cette connaissance de ce que Dieu éprouve en lui-même. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament pour éclairer et séparer jour et nuit, qu'ils soient des signes. Et il en fut ainsi. Dieu créa les deux grands luminaires, le soleil et la lune, le Christ et la Vierge. Dieu crée l'homme comme porteur du Christ et porteur de l'Immaculé. Tu es béni dans toutes les femmes. Quand le Père regarde Marie, il voit toutes les femmes. Parce que la Vierge Marie est une bénédiction à l'intérieur de toutes les femmes. Chaque femme porte la salutation angélique. Et chaque homme porte le Verbe de Dieu. Et vous le savez bien, dès que nous adorons, nous sommes hommes et femmes. Dès qu'on est dans la grâce originelle de l'adoration religieuse, de l'adoration chrétienne, de l'adoration en esprit en vérité, nous sommes hommes et femmes. Nous sommes époux et épouses, quelque part. Alors il y a le Christ et il y a l'Immaculée, quelque part, en nous, le soleil et la lune. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants. Et Dieu créa les grands animaux aquatiques et Dieu vit que cela était bon. Soyez féconds, multipliez-vous. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Et que la terre fasse sortir des êtres animés selon leur espèce, des animaux domestiques, des reptiles, des bêtes de la terre selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit des bêtes de la terre selon leur espèce, les animaux domestiques selon leur espèce, et tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Alors Dieu fait les animaux, les poissons, les oiseaux. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est là? Les poissons. Donc tout le mystère du corps mystique. Il y a, chaque homme est créé porteur de tout le corps mystique, les poissons. Chaque homme est porteur de toute la soif de l'humanité, les oiseaux. Chaque homme est porteur de l'humanité tout entière, les animaux sur la terre. Il y a un corps mystique. Adam est lié à tous les hommes, lucidement, concrètement, en pleine connaissance, comme dit saint Tite de Garde. Et chacun d'entre nous aussi, nous portons toute l'humanité, physiquement, hein, au sens de saint Thomas d'Aquin. Donc physiche, nous portons tout ça. Nous portons cette prédestination à la glorification de tout. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc Dieu crée l'homme et la femme, c'est le sixième jour. Donc l'époux et l'épouse, et l'unité des deux. L'unité des deux, c'est le septième jour. C'est le repos. C'est la très sainte Trinité. La très sainte Trinité est au cœur de l'homme. Ça, nous l'avons vu longuement. Donc vous voyez bien que Dieu, au départ, crée l'homme et la femme dans un état de perfection absolue. Tout est donné. Il lui reste une possibilité de s'écarter. Minuscule. Il y a des millions d'arbres dans le jardin. Ce que nous verrons tout à l'heure, cet après-midi, comment est apparu le péché. Mais en tout cas, je voulais vous lire quand même au moins le commentaire de Moïse sur ce passage de la création. Avant le premier jour de la création, je crois que je l'ai lu à certains d'entre vous, avant même qu'il y ait le temps, Bereshit, dans le principe, avant le temps, avant le commencement du temps, avant l'acte de création de Dieu, il y a le Bereshit. Alors ça, c'est pas mal, ça, Bereshit, dans le principe. Dans le principe, bon, je vous le dis, six choses, le principe est composé de six choses, comme dit le livre des Proverbes, et d'une septième. Le Bereshit est composé de six choses, le principe est composé de six choses, et je vais vous énoncer les sept qu'il contient. C'est dans le livre des Proverbes, je crois. Souvent, vous voyez ça, c'est pas ? Dans le livre des Proverbes. Dieu a créé deux choses, et voilà les trois. Et bien, c'est à cause de ça. Parce que normalement, il a prévu six choses, mais en fait, il y en a huit. Six choses dans le Bereshit. Six choses, Le Bereshit est composé, l'homme est composé de sept choses. Vous savez bien, il y a sept dimensions dans l'homme. Mais le Bereshit, lui, est composé de sept choses aussi. Parce qu'au fond, on a été créé à l'image du Bereshit. C'est vrai. Ça, c'est pas mal, tiens. On va faire un... Je suis content, là. On a trouvé quelque chose, là. Donc, six choses ont précédé la création du monde. Parmi elles, il y en a qui ont été créées et il y en a qui montèrent dans la pensée divine en vue d'être créées. La Torah, c'est l'impératif de l'amour. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. C'est la Torah, 613 préceptes. On va le lire, ne vous inquiétez pas. Il faudrait un mois, mais enfin... Mais nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, ce sera fulgurant. Alors, la Torah, c'est la loi. La loi. Dieu donne un impératif. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Les 10 commandements, 3, tu dois aimer Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. 7, tu dois aimer ton prochain. Il y a cette dimension, il y a cette manière d'aimer son prochain. C'est un impératif. Eh bien, Dieu, avant de créer, il fabrique l'impératif de l'amour. L'amour est un impératif. La mort de Dieu, la mort du prochain, c'est impératif. C'est avec ça qu'il va créer le monde. L'impératif. La Torah. Le trône de la gloire divine furent créés. Heureusement qu'avant de créer le trône de la lumière, Lucifer, heureusement que dans le Bereshit, il y avait le trône de la gloire. La gloire, c'est la victoire de l'amour sur tout. Dieu crée l'impératif de l'amour. Et avant de commencer la création, il y a la victoire de l'amour sur tout. Dieu est victorieux et l'amour est victorieux de tout avant même de commencer. C'est réconfortant. Et c'est avec ça que Dieu va fabriquer la création. La Torah, d'où savons-nous que la Torah a précédé la création du monde? De ce qu'il est écrit, Dieu m'a créé au commencement de son œuvre. Ça, c'est beau, ça. Le trône de la gloire divine, d'où le savons-nous de ce qui est écrit? Ton trône est fixé éternellement. Les pères. Ah, la paternité. La paternité. L'amour implique une fécondité d'amour. L'amour est débordant. L'amour ne s'arrête jamais. Dieu crée toute la création avec ce principe que l'amour ne s'arrêtera plus. Et Israël, quatrièmement, Israël. Israël, ça veut dire le peuple, le corps mystique. Dieu crée l'enveloppe messianique, l'onction, qui fait qu'il y a un corps mystique, il y a un cœur, il y a un amour collectif, il y a un amour interpersonnel, une compénétration d'amour qui bat. Il y a un tissu d'amour, ça. Il y a un corps mystique, le corps mystique qui va faire l'unité du peuple de Dieu dans l'Exode. Qui va faire l'unité du peuple de Dieu en Israël, qui va faire l'unité du peuple de Dieu dans le corps mystique de Jésus, qui va faire l'unité du peuple de Dieu dans la Jérusalem céleste, qui va faire l'unité du peuple de Dieu dans la glorification de tout. Il est créé avant. Et c'est la même âme, si vous voulez. Au fond, s'il y a une chose qui vit de la réincarnation, c'est le corps mystique. C'est la seule âme soit réincarné 5 fois. C'est sûr. Ça, la grande réincarnation, c'est ça. 5 réincarnations. C'est beau, ça. Bon. Cinquièmement, le Beit Hamikdash, ça veut dire le Saint des Saints, le Temple. Beit Hamikdash, c'est le Temple. C'est la maison du Saint. La maison du Saint des Saints. Le Beit, c'est la maison, et le Ha, c'est par excellence, mi, c'est au carré, enfin, une reduplication, et Kadesh, le Saint des Saints, la maison du Saint des Saints. La maison du Saint des Saints, vous savez ce que c'est, j'espère, c'est l'Immaculée. L'Immaculée Conception, elle est là avant le premier moment de la création. Avant que la première seconde ait commencé à frapper dans l'existence. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de seconde. Le temps n'existait pas. À un moment donné, le temps a commencé d'exister. Et bien avant, il y avait l'Immaculée Conception. Le Beth Amikdash, la demeure du Saint des Saints. Et le nom du Messie, sixièmement, le nom du Messie. Ah, voilà le sixième. Le nom du Messie, c'est quoi? C'est le Shem Mashiach. Alors, le nom du Messie, c'est la personne, c'est l'onction du Messie. L'onction, l'huile débordante, l'huile sainte, l'huile d'amour, l'huile parfaite, la saveur, l'odeur, l'huile, ce qui met tout dans les rouages, vous savez, l'onction, la sainteté du Messie. La sainteté du Messie est créée avant la création du monde. La sainteté du Messie va s'emparer du sang de la Vierge pour permettre, vous le savez bien, le mystère de l'incarnation sous l'obombration et la survenue de l'Esprit-Saint. Mais l'onction du Messie préexiste, on le sait bien. Il faudrait d'ailleurs lire toute la Bible en voyant comment ces six choses traversent toute la Bible. Ce serait très beau, ça. Si un jour vous vous embêtez, vous ne savez pas ce que vous avez à faire, vous n'avez rien à faire, parce que votre télévision ne marche plus, votre radio est en panne, et votre tourne-disque aussi. Le disque compact est foutu. Bon, donc, j'espère que ça vous arrivera le plus vite possible. Alors, à ce moment-là, voyez, vous... D'abord, vous prenez quelques antidépresseurs parce que vous ne supportez pas. Puis ensuite, vous prenez un sevrage d'antidépresseurs qui dure à peu près un an. Il y a 17 000 personnes en France qui sont hospitalisées aujourd'hui parce qu'elles essayent de faire un sevrage d'antidépresseurs. Je dis ça comme ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, oui, mais... Ne prenez pas d'antidépresseurs. Ne faites jamais une bêtise pareille. Rampez sur le sol tant que vous voulez, mais ne prenez pas d'antidépresseurs. Enfin, venez me voir quand même avant, hein. Parce qu'il faut que je vous prévienne ce qui vous attend si vous arrêtez. Hein. Donc faites attention, quoi. Faites attention. Mais en tout cas, il faut faire... Oui, et si on vit du sacrement de confession, il n'y a plus du mystère de la confession. Il n'y a plus besoin d'antidépresseurs, du mystère. On est heureux d'être lamentable. C'est notre bonheur d'être ce que nous sommes. Bon, les pères, la paternité, d'où le savons-nous? De ce qu'il est dit, comme du raisin dans le désert. Le corps mystique, Israël, d'où le savons-nous? De ce qu'il est dit, souviens-toi de ton assemblée, celle que tu as acquise au début. Le Beth Amikdash, donc l'Immaculée, la maison, la demeure du Saint des Saints. D'où le savons-nous? De ce qu'il est dit, le trône de gloire, élevé dès le premier jour. C'est que des passages qui sont dans l'écriture un petit peu rassemblés, que les rabbins rassemblent, pour dire le nom du Messie, d'où le savons-nous? De ce qu'il est dit, que son nom soit à jamais. Rabbi Ahaba Bar Zeira dit, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est pour ça que je vous le lis. Voilà, on a les six. La repentance aussi, monta dans la pensée divine. Il y a un septième. Il y a six choses qui composent le Bereshit. Et avec quoi la création va être fabriquée. Mais dans la pensée divine, qui enveloppe tout ça, il y a la repentance. La repentance aussi monta dans la pensée divine. Car il est écrit, il est dit, avant que les montagnes eussent été créées, depuis cet instant, tu fais revenir les hommes à la poussière. Mais il ne sait pas qui fut d'abord, si la Torah précéda le trône de la gloire divine, ou si le trône de la gloire divine fut avant la Torah. Mais il est écrit, la Torah précéda le trône de la gloire divine, puisqu'il est dit par ailleurs, Dieu m'a créé, début de son œuvre, précédant ce qui est écrit, ton trône est fixé de toujours. Rabbi Huna et Rabbi Irmeya, au nom de Rabbi Shemuel, Bar Rabbi Ishak, disent, la pensée d'Israël a précédé toute chose. Le corps mystique a tout précédé toute chose. C'est à comparer avec un roi qui était marié à une matrone et qui n'avait pas de fils. Une fois qu'il se trouvait à passer dans la rue, le roi dit, prenez cette encre pour mon fils. Et tous dirent, il n'a pas de fils. Et lui disait, prenez cette encre et c'est Kalam pour mon fils. Et les gens dirent, le roi est un grand astrologue. Si le roi n'avait pas vu qu'il viendrait à avoir un fils de sa femme, il n'aurait pas dit « prenez de l'encre et des calames pour mon fils ». Mais de même, le saint, béni soit-il, s'il n'avait pas vu qu'après 26 générations, Israël viendrait recevoir à la Torah, il n'aurait pas écrit dans la Torah « ordonne au fils d'Israël, parle au fils d'Israël ». Bon, tout ça c'est des petites... Après la grande révélation de Moïse, vous savez, à chaque fois, dans chaque midrash, après la grande tradition de Moïse, il y a les discussions des rabbins. Elles ne nous intéressent pas du tout. Pas du tout. Ça nous intéresse pas. Ça t'intéresse, toi ? Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est intéressant pour savoir à quel point le Christ nous a éclairés sur la tradition de Moïse. Il y a l'Écriture, l'Esprit-Saint enseigne à Moïse, et puis Jésus. Mais toujours est-il qu'il y a une chose qui est extraordinaire, savoir que Dieu, dans le Bereshit, avant de créer cette perfection de l'homme, qui fabriquait avec toutes les potentialités, c'est ça, les 6 jours et les 7 jours de la création, toutes les potentialités d'amour sont là, toutes, sans exception, puisqu'il y a même cette capacité à rentrer dans la très sainte Trinité, éternellement, c'est dedans, à rentrer, et la très sainte Trinité est donnée au fond de l'être de l'homme, dès le départ aussi, il y a ça, il faut voir, et bien tout ça est enveloppé par les 6, ces 6 du Bereshit, c'est quand même formidable, ça. C'est étonnant de savoir que, au fond, nous avons été ces 6, au fond, c'est la matière première. La matière première, c'est l'amour. Mais c'est un amour surnaturel, c'est un amour divin. On a été fabriqués avec ça. Et puis, il y a un 7e, c'est la repentance, la confession. Il y a un 7e. Parce que Dieu sait très bien que l'homme a tellement reçu que du coup il est écrasé, il est pauvre, parce que ce qu'il a reçu c'est trop grand, alors il est écrasé, alors il faut la repentance, il faut la miséricorde, et il sait qu'il va y avoir, le bon Dieu le sait, qu'il va y avoir cette séparation, ce péché, cette faute, il le sait très bien. L'homme dit, moi je suis minable. Et puis, oh, qu'est-ce que je suis minable? Oh là là, mais c'est terrible, mais je suis minable. T'as fallu être minable comme ça. Oh, mais je désespère d'être minable. Oh, quelle angoisse, que je suis minable. Oh là, je me ronge, je suis minable. Oh, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est foutu, tout est foutu pour moi. Mais je suis... C'est fou, de toute façon, c'est foutu. Oh, bah, c'est incroyable. Non, je suis minable, Non, je suis minable, puis j'en ai rien à faire, puis de toute façon je m'en fiche, puis c'est là, puis non, j'en peux plus, allez vite, ah non, t'as arrêté quoi, non mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là moi, j'arrive pas à aimer alors, de toute façon personne ne m'aime alors, là, je suis resté partout, puis derrière, je me regarde dans une glace, je suis moche, alors, comment veux-tu, de toute façon même moi je m'aime pas alors, mais il sait, Dieu sait ça. Dieu sait qu'en créant en l'homme, dans cette potentialité d'un amour qui dépasse tout, il sait très bien qu'il y a une possibilité pour lui de se replier. Il n'y a aucune possibilité pour l'homme d'aimer et de voir ce qu'il est en pleine connaissance s'il ne rentre pas précisément dans ses pauvretés. Et que ses pauvretés sont matière au mystère de la confession. À la confession, je confesse que je suis l'amour. Je confesse que je suis fabriqué avec de l'amour. Je confesse ce que je suis. Et la meilleure manière de le confesser, c'est de confesser ses pauvretés. C'est impossible de recevoir le don, ce don si grand, si je ne suis pas entièrement dépouillé, pauvre. Il faut le mystère de la confession. Alors évidemment, si je désespère, je suis angoissé, c'est évident. Dieu sait très bien que je peux vivre ce mystère de la pauvreté en me repliant sur moi. En réalité, finalement, en disant « Oh, je suis lamentable », mais je me gargarise, hein, parce qu'au moins j'ai l'impression de... Je me caresse à chaque fois. « Oh, qu'est-ce que je suis pauvre, oh, j'y arriverai pas. » Je me caresse, là, c'est... Hop, je me caresse moi-même, c'est... je me lèche, si je pouvais avoir une langue assez grande, je me lècherais partout. Il y a une espèce de volupté à dire, j'en peux plus. Mais au moins on a l'impression de vivre, d'exister. On a l'impression, oui, ça y est. Il le sait très bien, Dieu, ça. Que je peux utiliser cette potentialité pour m'aimer moi. M'aimer moi-même, alors ce sera à travers la plainte, l'amertume, le désespoir, l'angoisse. Mais si je me regarde moi-même, face à moi-même, dans cet amour-là, ce sera de l'amour au fond. Ce sera un amour de crapaud, un amour de... Mais ce sera de l'amour, mais c'est une manière de m'aimer moi-même. Vous voyez ? C'est une manière de me... Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il constitue l'homme, il constitue la création, avec ce septième, la confession, la repentance. C'est pour ça qu'il y a six. Mais je vous dirai quel est le septième et le huitième. C'est très beau ça. Le septième, c'est la confession. Le huitième, c'est la contrition. Il y a la miséricorde. Il y a la charité. Parce que Dieu peut faire que mon amour, à partir de ces pauvretés-là, qui viennent du péché, et qui font que je suis vraiment pire que tout, peut faire qu'à partir de là, je dépasse tous ceux, en amour, je dépasse tous ceux qui n'ont jamais péché. Je dépasse. Et c'est pour ça qu'il crée ce septième. Ça, je trouve ça merveilleux. Extraordinaire. Mais alors, que Dieu nous prête sa grâce, parce que vous savez, nous allons faire tout ce qui est possible pour demander à Jésus de nous transplanter continuellement dans le mystère de la confession. Alors, on va regarder peut-être rapidement, essayer de faire assez rapidement parce que l'Ancien Testament, parce que je crois que c'est bien de le faire. Regarder toutes les prophéties, n'est-ce pas, toutes les grandes préparations qu'il y a dans l'Écriture pour comprendre ce sacrement final. C'est pas le sacrement ultime. Hein. Le sacrement ultime, c'est l'Eucharistie. C'est le sacrement final. Pas tout à fait pareil. Le sacrement fondamental, c'est le baptême. Le sacrement ultime, c'est l'Eucharistie. C'est là où le don est le plus grand. Mais le sacrement final, c'est la confession. Je vous ai qu'à regarder. Mais c'est vrai, c'est le dernier sacrement. Jésus, quand il institue ce sacrement, il confesse ce qu'il a toujours été. Et dans la Trinité, et dans sa vie terrestre, et sur la croix, et dans les enfers, et dans la résurrection. C'est là où il met le sceau et il confesse ce qu'il est. À nous, il confesse ce qu'il est au Père, à travers nous. Et c'est notre rôle de transmettre cette confession du Christ au monde et au Père. Et c'est précisément ça, l'immense grandeur du sacrement de confession. On ne se confesse pas pour être débarrassé de ses péchés. Ça, c'est complètement idiot. Ça. C'est évident. Vous le saviez bien de toute façon. Je suis sûr que vous ne l'apprenez pas. Mais néanmoins, si on ne les confesse pas, crûment, en pleine vérité, sans se justifier, sans chercher les petits trucs, si on ne les confesse pas, on ne peut pas remplir ce rôle sacerdotal final. Heureux péché qui fait de nous des rois, des prophètes et des prêtres, d'une si haute élévation. Alors, simplement, je voudrais vous demander, avant qu'on commence, c'est dans 10 minutes qu'on célèbre l'Eucharistie, je voudrais quand même que tu prépares l'autel. Simplement, restons à partir de maintenant, si vous voulez bien, on va rester, alors là, vous donner l'exemple, mais vraiment silencieux. Vous avez chacun un petit livre, si vous avez quelconque tentation, vite, vous prenez votre chapelet, vous sortez dehors. Bon, si vraiment vous n'en pouvez plus, alors à ce moment-là, vous frappez quelqu'un qui n'en peut plus et vous sortez dehors. Mais dedans, non. Jamais. Et même, non. Sinon, je vous assure, on n'y arrivera pas. Et il faut absolument qu'on arrache au Saint-Esprit le secret du mystère de la confession. Si on ne vit pas dans ce silence, je vous affirme qu'il ne nous le donnera pas. C'est pas moi qui pourrais vous le donner. Ça vient de Dieu. Et ça, nous sommes tous la matrice de cette venue du mystère, de la confession. Vous savez bien que si tout le monde ne s'y met pas à enfanter cette révélation, elle ne sera pas enfantée. Donc que personne ne vienne empêcher cet enfantement. Et puis, restons dans l'amour, disons à Jésus qu'on est pauvre, qu'on n'y arrive pas, qu'on a envie de parler, hurler, dire. Mais ne hurlons pas, ne parlons pas, ne gémissons pas. Et puis, si vous voulez bien, c'est dur, mais c'est comme ça, et c'est très bien. Il faut accepter, justement, de rentrer dans l'amour par les voies de l'amour. L'amour est toujours très 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 secret. Quantique. Et puis, donc, donnez l'exemple. Et si jamais vous voyez d'autres qui arrivent, alors,